Histoire et mémoire, une émission présentée par Jean-Claude Galerne, avec Jean-Marie à la technique, l'histoire de Châteaudun.
Alors nous recevons aujourd'hui M. Roland Picard, qui est le dernier résistant de Châteaudun, qui a libéré Châteaudun en 1944, c'est-à-dire... Le 17 août 1944. Et à l'époque, ce jeune homme avait donc 16 ans.
Exact.
Alors, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Comment tu as été, on peut dire, amené dans cette affaire?
Alors, déjà pour commencer, j'avais un copain qui s'appelait... Marcel Thauvin, on l'appelait La Boule, je ne sais pas si tu as connu.
Oui.
Et qui, lui, était déjà dans la résistance. Et on allait mettre dans les boîtes aux lettres des prospectus contre les Allemands. Et puis, quand il y a eu le débarquement en Normandie,
Le 6 juin.
Oui, le 6 juin. Moi, je suivais toujours mon frère. Mon frère aîné, il avait 3 ans de plus que moi. J'étais toujours fourré dans ses pattes. Et on a rencontré M. Léon. Je ne sais pas si... C'était son nom, Léon, hein. Et qui nous a dit, petit gars, il ne faut pas rester là, il faut y aller. Hein. Et il faut y aller, c'était d'aller dans la résistance. Et puis, on avait donc, il nous avait donné un mot de passe, et on avait rendez-vous dans la rue Saint-François, dans la petite ferme qui appartenait à monsieur et madame Denis. Et là, on était reçus, et il y avait déjà pas mal de résistants. Et on était combien? Je ne me rappelle pas, hein. C'est vieux, hein. Peut-être une quarantaine, oui. C'est à peu près ça. Et puis, on nous a donné des mitraillettes, des fusils mitrailleurs. Et puis, on a attendu le mois d'août. Il y avait deux sœurs qui nous faisaient à manger. Et je me rappelle des noms de jeunes filles qu'elles avaient, c'était Coulon. C'était deux jeunes filles, elles étaient courageuses parce que fallait faire à manger pour tout le monde. Et on était là à rien faire. On a attendu jusque les Américains ils arrivent. Et la veille que les Américains arrivent, ils sont bombardés, et puisque dans la rue Saint-François, à côté, il y avait Léo Lagrange, là, qui servait aux Allemands, bien sûr. J'essaye de me souvenir à peu près. Oui. Il y avait toujours, dans cette petite ferme, il y avait un grand portail. Et puis une petite porte par où on rentrait. Et il y avait toujours un homme avec son arme qui était à l'intérieur, bien sûr. Et puis quand quelqu'un venait, il fallait qu'il donne un mot de passe. Hein. Et la veille que les Américains arrivent, il se pointe un Allemand qui a donné le mot de passe, je ne sais pas. Ou que celui qui était à la porte a cru comprendre. Et puis il a ouvert, Et puis l'Allemand est rentré, quand il a vu que le gars, il avait une arme, alors l'Allemand, il a pointé sa mitraillette sur lui, mais il y avait un monsieur Lasserre, qui était un résistant, qui était dans le bâtiment, qui a sauté du premier là, en bas, et puis l'Allemand s'est tourné vers lui et lui a envoyé une rafale de mitraillette. Alors c'est fait qu'on avait tué un Allemand. Et cet Allemand, qu'en faire? Parce que, faut pas oublier, il y avait 5 chars tigres à Nermont. Et on sait pas si c'était un de leurs, cet Allemand, ben on l'a enterré dans le tas de fumier. Et quand les Américains sont arrivés, bon, on leur a donné les papiers, tout ça. Mais une rafale de mitraillette dans la ville, ça s'entend, hein. Alors, on était sur le pied de guerre à attendre, mais heureusement, ça n'a pas eu de répercussions. Et je me rappelle quand même que, plus loin, là, il y avait les moines. Rue Duval.
Les Pères Blancs.
Les Pères Blancs, oui. Et il était convenu que si on avait des problèmes, fallait se sauver, on s'en allait par les jardins en haut, et puis on allait chez eux, et eux, ils se chargeaient de nous cacher. Parce qu'il y avait des souterrains, tout ça, et que, bon, on n'a pas eu besoin de ça, tant mieux. Et puis, ben, est arrivée la libération de Châtenay, on n'a pas fait grand-chose. Ouais. Les Allemands étaient partis, hein. Ils étaient sauvés. Et puis, ben, tout le monde se rappelle que la capitale, Paris, les résistants s'étaient soulevés. Et ils n'y arrivaient pas, parce qu'avec des mitraillettes contre des chars ou des trucs comme ça, c'est pas possible. Alors ils appelaient au secours. Et puis, on est une bande de résistants de Châtenay qui sommes partis à Chartres, qui venait d'être libérée par la 2e DB. Et je me rappelle du nom du capitaine qui commandait la 2e DB, c'était le capitaine Drone. Oui, je me rappelle, c'est un Sartois. Et tous les résistants du département, une grande partie, se sont retrouvés à Chartres pour aller aider la libération de Paris. Et comme il fallait que ça soit l'armée régulière qui libère Paris, on nous a interdit d'aller devant. Mais on a servi de fantassin à la 2e DB. Et on est parti avec eux libérer Paris. Alors, les résistants du département, Dreux, Nogent-le-Rotrou, et puis tout le monde, là. Je me rappelle que, à Paris, au Champ de Mars, les Allemands étaient retranchés à l'école militaire et ils ne voulaient pas se rendre. Je me souviens avoir fait le coup de feu. Avant, quand on est rentré dans Paris, on a été accueilli par la place d'enfer de Rochaux. Il y avait une grande échelle, mais haute. Et en haut de l'échelle, il y avait un pompier avec une mitraillette qui surveillait toutes les toitures. Parce que les Allemands, c'était à craindre, tout à fait. Mais le plus à craindre, c'était les miliciens. Parce que eux, ils savaient que l'horreur est arrivée, alors.
Roland, on va faire une petite pause musicale, et puis après, tu vas nous raconter cette libération de Paris par un Dunois.
Ah oui.
Un Dunois de 16 ans.
Ah okay. Bah oui.
Allez, on va écouter Tchaïkovski quelques minutes. Thank you. nous reprenons donc notre...
Alors, quand on est arrivé à Paris, dans Ferrochereau, on est descendu, je crois que c'est l'avenue du Maine, et là, on a fait la course aux miliciens dans le cimetière du Montparnasse. À travers les tombes, c'est qu'ils nous avaient canardés avant, hein. Et puis bon, bah, Paris a été libéré, et puis nous, c'était fini pour Paris. Ah, je me rappelle pas de son nom, mais on a eu un lieutenant, le résistant du département, qui a été tué à Paris. Il y a une plaque qui est opposée sur une rue, je sais pas, je me rappelle pas laquelle. Alors, on est, un coup que Paris a été libéré, on nous a emmenés sur la Loire pour empêcher les Allemands qui étaient dans le sud remontent pour s'en aller sur l'Allemagne, disons. Alors on était à Bôle, à côté de Main. Et puis après ça, on nous a emmenés à la Charité-sur-Loire. Là, on a pris contact un petit peu avec les Allemands. Et puis, ben, quand tout ça, ça a été fait, on nous a ramenés à Dreux, à la caserne de Dreux, où on nous a fait signer, pour ceux qui le voulaient, un engagement. Alors, c'était la durée de la guerre, ou bien 3 ans, ou bien 5 ans. Alors, pour ma part, je me suis engagé pour 3 ans, et il était arrivé une note de service par laquelle il demandait 100 volontaires pour aller dans la deuxième DB. Mais on n'était pas 100, hein. On était un bataillon, on voulait tous y aller. Moi, je n'ai pas été élu, mon frère a été élu avec pas mal de copains. On me rappelle de Perru, t'as connu Perru, Raymond. Et puis, ils ont été emmenés à Paris. Ils n'ont jamais été dans la deuxième DB. Ils n'ont jamais été au front. Ils faisaient les gardes pipelines. Et nous, on nous a fait un petit peu de manœuvre à Dreux. On était pas mal, mais on nous a habillés en anglais, on avait l'armement anglais, et on a défilé le 11 novembre 1944 sur l'avenue des Champs-Élysées, devant De Gaulle et Churchill. C'était le premier grand défilé, 11 novembre 1944, la guerre n'était pas finie, hein. Et j'ai une photo à la maison. Où c'est que, comme j'étais grand, j'étais le pivot de ma compagnie. Et modestement, ben, je ne sais pas qui c'est, on m'a pris en photo. Et alors, on me voit de l'Arc de Triomphe derrière. Alors, cette photo, elle m'a suivi toute ma vie. Hein. J'en ai fait faire après des reproductions. Alors, on nous a emmenés après de Dreux. On nous a emmenés à Bourges, mais tous les ponts de la Loire avaient sauté, ce qui fait que pour aller de Dreux à Bourges, on est descendu par le Massif central et puis on est remonté comme ça. Alors, pour un petit brosseron de ma que j'étais, j'avais jamais vu la montagne. Voir ça, c'était merveilleux, hein. Et puis, on a fait à Bourges, ben, on nous a fait encore quelques manœuvres, et puis on est monté en ligne à La Rochelle. On était à Chaillet-les-Marans, vous voyez ça, Chaillet-les-Marans. Et après ça, on a été enlevé, relevé, et on nous a emmené sous le front de Royan. Et jusqu'à l'attaque de la libération de Royan, où il n'y avait plus de civils d'ailleurs, hein, ils avaient été évacués, j'ai vu quelque chose de formidable. Le 15 et 16 avril 1945, Il est passé au-dessus de Royan la veille de qu'on attaque. Il est passé 1200 bombardiers. Il y avait 700 pièces d'artillerie. C'est bien simple. On voyait, il faisait un temps merveilleux. On voyait les bombes qui partaient des soutes des avions, mais on les voyait pas arriver parce qu'il y avait un nuage de poussière extraordinaire. C'est pas pensable. Et puis, ben, il a fallu des gens partir en reconnaissance. On était tous volontaires, hein. On t'engageait, alors... et puis, on en voulait, hein. Et j'étais volontaire désigné avec des copains, puis sur une chenillette, on est parti pour aller en reconnaissance. Et puis... oh, je revois l'endroit où ça arrivait. On a sauté sur une mine anti-char et je me suis retrouvé à l'hôpital à Sainte. Parmi les plus blessés, ça a été le chauffeur. Ils ont failli l'amputer des deux jambes. Et puis ils ont arrivé. Il a été un an et demi à l'hôpital à Bordeaux. Et puis, ben, la guerre s'est terminée là. Voilà. Après ça, ça a été... On nous a emmenés sur la frontière luxembourgeoise pour faire les gardes frontières.
Et donc, à Royan, vous étiez parti pour libérer la fameuse poche de Royan, parce oui. que si Châteaudun a été libéré le 17 août 1944, au mois de mai 1945, pratiquement, il y avait encore donc, la résistance à Royan, des Allemands.
Les copains, parce que moi j'étais à l'hôpital à Saint. Après Royan, ça a été l'île de Léron. Et puis après l'île de Léron, ça a été la pointe de Grave. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en vacances ou quoi, à la pointe de Grave, vous trouverez des endroits où il y a des plaques retraçant la mémoire de tout ce qu'on a fait. Cela, ça c'est difficile, très difficile. Il y avait des fortins qui étaient... ils voulaient pas s'entendre, hein, les Allemands. Ils étaient encore fanatisés. Hein, alors, il a fallu faire appel à l'aviation, aux bombardiers légers qui sont venus puis qui ont lâché des bombes en rase-motte sur les fortins pour arriver à les faire... c'est... je me rappelle, on a fêté les 50 ans de la libération de la pointe de Grave, et j'avais des camarades qui pleuraient de se rappeler de ce qu'ils avaient vécu. Et il ne faut pas oublier une chose, j'étais jeune, 16 ans, 44, mais il y en avait qui pouvaient être mon père et même mon grand-père, parce que dans les résistants, l'âge, ça ne comptait pas. Hein, alors, j'ai connu tout ça.
Voilà, alors on va faire une pause musicale avant de poursuivre l'aventure après la poche de Royan. Donc on va écouter un petit morceau de Beethoven. Mon cher Roland, vous avez libéré la poche de Royan, et après, qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, on nous a emmenés à Thionville, et puis, un coup que Royan a été libéré, c'était les 16 et 17 avril 1945. Alors, c'était pas loin de la fin de la guerre, hein, quand ça a été fini. Bon ben, on nous a emmenés à Thionville pour faire les gardes frontières. Alors, j'étais sur la route à la frontière, sur la route qui va de Metz à Luxembourg. Et ben, on n'avait pas grand-chose à faire. On empêchait les Français d'aller au Luxembourg parce que quand la guerre a été finie au Luxembourg, c'était, il y avait tout. Hein. Ils étaient ravitaillés par les Américains, mais il y avait du lopin. C'était pas du pain avec de la farine de blé, c'était de la farine de riz. Il était blanc ce pain. Et puis il y avait tout. On pouvait aller à on avait l'autorisation d'aller au Luxembourg. On allait, puis on achetait des gâteaux, des trucs comme ça. C'était va-t'en. Et puis, quand ça s'est fini, ça, il y a des camarades qui ont été emmenés garder les prisonniers dans les mines. Moi, comme j'avais été blessé et puis que j'étais au bureau de la compagnie, on m'a chargé avec le sergent-chef Staché, puis notre copain Roland Jouot, qui était caporal, de faire la liquidation du régiment. Alors on est venu à Orléans parce que mon régiment, c'était le 131e régiment d'infanterie. C'était le régiment phare de la ville d'Orléans. C'était à la caserne Coligny. Et on est venu à Orléans pour faire cette liquidation du régiment. Alors, après ça, disons que on nous avait mis en subsistance au 2e Hussard. Je veux pas dire de mal de ces gens-là, mais on était un peu des indisciplinés, nous. Hein. Alors, en subsistance, quand on est arrivé au 2e Hussard, sur le boulevard de Châteaudun, il y a un sous-officier qui est venu trouver mon copain et moi, qu'on s'était mis à une table, et puis qui nous a regardé, puis vous deux, là, vous allez aller chercher le manger de la table des sous-officiers. Alors, regardez, tu t'en fin, tu fais comme nous, tu vas chercher. Donc, mais il ne faut pas que tu comptes sur nous, quand même. Alors, on s'est pris de... Alors, il y avait un adjudant qui était le responsable du réfectoire qui a entendu qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Toujours. Alors, moi, je lui disais des mon lieutenant, parce que chez nous, un adjudant lui disait mon lieutenant. Et puis... Non, mon adjudant. Et puis l'autre, il lui disait « Bon lieutenant, alors, pour finir, je n'ai pas été chercher. » J'ai été avec mon copain qui était caporal, exempt de corvée. Moi, j'étais première classe, exempt de corvée. Et ils ont fini par nous laisser tranquilles. Mais ça avait fait du bruit. Hein. Et ben, j'en ai eu marre de l'armée. J'ai résilié mon contrat parce que j'en ai eu la possibilité. Et puis je suis rentré dans la vie civile.
Voilà. De ce régiment-là, au départ, c'était le premier bataillon ou c'était le
alors,
combien ?
Quand les résistants du département se sont groupés et puis qu'on a été faire la libération de Paris, on s'est appelé le premier bataillon d'Eure-et-Loire. Et dans toutes les villes importantes du département, il y a une place, un endroit, à Châteaudun, il y a la place du 1er bataillon d'Eure-et-Loire, où c'est, il y a les stades à Chartres. C'est aux Comtesses. Aux Comtesses, la ville de Chartres a daigné bien vouloir nous donner un emplacement pour qu'on mette une pierre. C'est comme un dolmen, disons, qu'on a payé d'où l'amicale du 1er bataillon. Puis avec dessus tout le pedigree du bataillon. À Dreux, il y a aussi un endroit où il y a le premier bataillon.
C'était le colonel Thiel qui commandait ce bataillon, non ?
Non.
Non, c'était pas lui.
C'était le premier qui a été comme commandant, c'était Fargeon. Les crayons bagnolés Fargeon, là. Mais il y a eu quelque chose que je ne sais pas. Je crois qu'il s'est suicidé. Alors, celui qui l'a remplacé, c'était Antoine Delair. Antoine Delair, qui était de Beaumont-les-Hôtels, le baron de Antoine Delair. Un homme comme ça. Ouais. Dans sa forêt, il avait un maquis là-bas, qui a participé à la libération de Nogent-le-Rotrou.
Maquis de Plainville. C'était le maquis de Plainville.
C'était un peu plus loin.
Un peu plus loin.
Ouais. Lui, c'était dans sa forêt. Quand on arrive à Beaumont-les-Hôtels, là, il y a de grandes forêts. C'était là.
Mais pour rentrer dans la résistance, quand même, dans l'armée, ils t'ont pas demandé ton âge, ils t'ont rien.
Ah ben.
Non ?
Si. Alors, comme à 16 ans, on n'avait pas le droit de s'engager, et puis que on voulait me renvoyer à la maison, j'ai tempêté et tout pour en finir. Antoine Delair, il m'a vieilli d'un an. Alors, j'avais 17 ans pour l'armée. Et bien après, Antoine Delair m'a avoué qu'on était 11 au bataillon qui n'avions pas 17 ans. Et parmi ces 11, c'était moi le plus jeune. Ben, c'est une période.
Oui, mais tu étais grand aussi. Hein. C'est pour ça, tu trichais avec ta grandeur.
C'est pour ça. J'étais l'homme de base de la compagnie. Quand on défilait, j'étais toujours le premier à être vu.
Mais quand même, ça doit impressionner quand même de défiler devant De Gaulle, Churchill, Leclerc, Delatte, de Tassigny, non ?
Ben, c'est. Je me rappelle de ça. C'est l'avenue des Champs-Élysées, à cette époque-là, c'était des pavés de bois, la chaussée. Et au mois de novembre, le 11 novembre, là, il y avait du brouillard, de la brume. Et comme on avait des chaussures anglaises, c'était des semelles en cuir, ben pour tenir bien, c'était pas facile. Oui, je me rappelle de ça. Ben oui, De Gaulle, je l'ai revu tout de suite après, parce que quand De Gaulle est arrivé à Notre-Dame, et puis que ça s'est mis à canarder, c'était des miliciens qui essayaient. J'y étais. Oui.
Voilà. Eh bien donc, Roland va te remercier pour cette partie que nous ne connaissions pas sur la résistance, sur la libération de Châtelain, et parce que tu as été au-delà. Voilà, merci Roland.
Ouais, je sais.